Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour Ariane Bois.
Bonjour.
Votre dernier roman est un roman choral qui court sur une décennie, les années 70, et qui a une unité de lieu, un immeuble de haut standing, célèbre et fameux, au cœur de Manhattan. Il s'agit de l'immeuble Dakota, et des célébrités comme John Lennon, Lauren Bacall, Patti Smith, Lou Reed, Frank Sinatra, Leonard Bernstein ont habité cet immeuble, et y rencontrent les personnages, vos personnages de fiction dans Dakota Song, votre cinquième roman édité par Bellefond. Mais vous avez vécu, bien sûr, à New York, Ariane Bois.
Oui, tout à fait, j'y ai habité 2 ans pour finir mes études de journaliste.
Et voilà, journaliste, parce que c'était ma première question, votre roman, ça doit être une fiction, il est très bien documenté sur l'histoire de cet immeuble. Pourquoi le Dakota?
Alors, le Dakota, parce que je me suis intéressée à Lauren Bacall, qui y habitait, et puis j'ai lu ses autobiographies, elle en a écrit 3, et au fur et à mesure, je lisais son amour pour son immeuble, et je me suis interrogée, qu'est-ce que ça fait d'avoir comme voisin John Lennon, d'avoir Leonard Bernstein ou Rudolf Nureyev, et je me suis dit au bout d'un certain temps que plus que sa vie, c'était son immeuble qui m'intéressait. Et vous avez raison, j'ai fait un travail de grand reporter aussi, non pas uniquement de romancier, pour relater la vie de cet immeuble vraiment très différent des autres.
En quoi il est différent?
Alors d'abord physiquement, il est sur la 72e rue, à la hauteur de Central Park. C'est un espèce de château médiéval du 18e siècle, un peu, je dirais, vampiro-gothique, le genre, avec des douves, avec des tourelles, avec des gorgones, avec des gargouilles. Enfin, il est très impressionnant, il est très sombre. Maintenant, il a été nettoyé, mais il était très, très sombre à l'époque. Et puis, c'est un des rares immeubles qui a été créé en 1884, un des premiers, en fait, un immeuble d'habitation. Et ça a été un succès total. C'est un monsieur qui s'appelait Edward Clark qui a eu l'idée, et d'ailleurs le pressentiment incroyable, que New York allait devenir une mégalopole et que les riches accepteraient de ne plus vivre dans des maisons particulières, mais dans des immeubles. Donc, c'est l'immeuble qui représente New York dans sa richesse et dans sa diversité.
Alors, c'est surtout un immeuble qui fonctionne d'une drôle de manière, hein. C'est-à-dire, oui. c'est pas un immeuble privé classique.
Non, c'est par cooptation, c'est-à-dire que vous ne pouvez rentrer que si le board de la copropriété vous y autorise. Et là, vous avez beau être riche, vous avez beau arriver avec des valises remplies de dollars, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Vous passez en fait un grand oral, et on vous pose des questions toutes plus indiscrètes les unes que les autres. Et puis souvent, on vous refuse. Madonna a été refusée, Melanie Griffith a été refusée, John Lennon a été accepté, mais après de longues, très longues discussions, le processus dure environ 6 mois avec, vous devez montrer tout, vos impôts, vos taxes, être sûr que vous n'avez aucune dette, et puis vous devez répondre à des questionnaires très précis.
Et ces questionnaires précis, c'est pour rassurer tous les autres locataires, que la personne qui va venir ne va pas ramener du monde, des médias, du grabuge.
Oui, c'est un peu tout ça. Quand John Lennon est arrivé, il était étranger, donc en anglais. Il était musicien, donc la musique. Il était quand même très féru de drogue, donc pas évident pour certaines personnes. D'autres, évidemment, se réjouissaient. Le but, c'est vraiment de maintenir une communauté de rich and famous qui reste plus ou moins entre eux. Et donc, moi, j'ai décidé de créer un héros qui rentrerait dans le Dakota et qui serait très différent.
Il n'est pas du tout dans le style et dans la classe sociale, et même on peut même parler de racisme, puisque vous imaginez plutôt un noir qui va trouver refuge et qui va travailler dans cet immeuble. Avant d'arriver à votre fiction, Ariane Bois, dans le Dakota Song, qui sont ces gens-là qui habite cet immeuble?
Maintenant ou dans les années 70?
À partir des années 70.
Alors, à partir des années 70, donc des gens qui ont un certain niveau social, qui ont de l'argent puisque les appartements coûtent déjà très cher, bien que maintenant ils coûtent évidemment beaucoup plus cher. Lauren Bacall s'y installe en 1961. Tchaïkovski a été un des premiers à avoir un appartement. D'autres, vous savez, Boris Karloff aussi, Monsieur Frankenstein a été un des premiers people seule à s'y installer. Et puis Judy Holliday, Judy Garland, Robert Ryan, Roberta Flack, vous savez, cette chanteuse noire qui chantait Killing Me Softly with His Song.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc tous ces gens qui ont un sentiment de sécurité, de communauté, de vivre comme dans un château en Europe, en plein cœur de New York.
Voilà, mais ce sont des appartements. Hein.
Ce sont des appartements, 93, tous différents, avec des hauteurs sous plafond incroyables de 6 mètres de haut. Certains ont une piscine, d'autres des hammams. Ils sont magnifiques. Alors nous, en Europe, on est habitués à avoir des jolies demeures, mais il faut se rappeler quand même que New York, les appartements sont plutôt petits, dans des immeubles exigus, tout en hauteur, la ville debout hein, de Céline. Et là, on prend de l'espace. Par exemple, l'appartement de Lorraine Bacall avait 9 pièces. C'est considéré comme un appartement, 9 chambres, un appartement moyen au Dakota, mais certains appartements avaient jusqu'à 25 chambres.
Et puis, c'est aussi une ville dans la ville, hein, ce Dakota, ou ça l'a été plutôt.
Oui, puisqu'il y a 150 personnes qui étaient là pour s'occuper des gens, des résidents, et qui étaient donc là pour satisfaire leur moindre désir. Là aussi, par cooptation des personnes qui y travaillaient, leurs parents y travaillaient depuis. C'est une espèce de communauté comme peut-être un kibbutz, on pourrait dire. En tout cas, une forteresse dans New York qui n'obéit en fait qu'à ses lois. Et c'est ça ce qui m'a intéressé d'ailleurs d'un point de vue littéraire. Voilà, le thème de l'immeuble est tout à fait passionnant.
Ouais, parce que c'est le microcosme de... Mais est-ce que, Ariane Bois, tout ce que vous nous racontez sur le Dakota est toujours d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut être coopté pour...
Bien sûr, comme dans beaucoup d'immeubles à New York, il faut tout à fait être coopté. C'est de plus en plus dur. Après l'assassinat de John Lennon en décembre 1980, le Dakota s'est encore plus renfermé sur lui-même. Il y a toujours des familles qui y vivent. Il y a toujours Yoko Ono qui y habite, qui est une dame d'un certain âge maintenant et sur lequel toute la communauté du Dakota veille. Il y a beaucoup d'investment bankers et un peu moins de familles peut-être.
You want to live in this lousy world? Play it cool. I want to get even.
Get cool.
I want to bust cool.
I want to go cool.
Boy, crazy boy. Get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep coolly cool, boy. Don't get hot, 'cause man, you've got some high times ahead. Take it slow, daddy-o, you can live it up.
Un extrait de West Side Story. Et
magnifique.
Vous savez, vous savez pourquoi, Ariane Bois? Parce que un des locataires de cet immeuble mythique, le Dakota à Manhattan, à New York, est le compositeur Leonard Bernstein. Toutes ces célébrités qui ont habité le Dakota sont dans votre roman, une fiction, mais les vrais personnages, c'est quand même ceux qui n'appartiennent pas à ce monde. Et en particulier, ce noir, un jeune noir de pas très loin, Harlem, c'est pas loin. Hein.
Un monde ailleurs.
Ouais, à quelques rues. Et puis c'est un autre monde qui vient trouver refuge après une rixe et qui va travailler dans cet immeuble. Alors, pourquoi prendre justement ce personnage-là? Est-ce que c'était pour vous, Ariane Bois, une manière de revenir sur les combats pour les droits civiques qui ont continué aux États-Unis et dans les années 70? C'est pour avoir cette idée-là dans votre description de cette époque et de ce New York?
Bien entendu, et puis c'est l'opposition entre deux mondes. Sean, mon personnage principal, est effectivement un jeune homme de Harlem qui n'a jamais quitté le ghetto et qui, à la suite d'un concours de circonstances, se retrouve au Dakota. Donc c'est un peu notre témoin, c'est notre sésame pour rentrer dans cet immeuble mythique. C'est aussi avec ses yeux de néophyte que l'on voit l'immeuble et ses différents personnages. Et puis, il représente l'extérieur, il représente un souffle, comme vous l'avez dit. Les années 70, ce sont après les années 60 et les combats pour les droits civiques, les combats pour l'égalité réelle. Et Sean représente ce personnage-là qui est à la fois en colère contre la situation des Noirs aux États-Unis, mais qui est très pragmatique et va utiliser en une certaine manière le Dakota pour apprendre, pour s'ouvrir, pour faire connaissance avec un autre monde.
Alors Shawn va être le premier portier noir du Dakota. Mais est-ce qu'il y en a eu des...
Tout à fait, 1976, le premier portier noir du Dakota. J'ai un peu devancé l'appel, mais d'autres immeubles très prestigieux de New York ont commencé à avoir des portiers noirs à cette époque, 1970, 1972. Et je me suis dit que c'était un formidable cheval de Troie pour entrer dans une communauté fermée.
Et vous décrivez donc un New York qui a complètement disparu. Hein.
Complètement, complètement. C'est un New York à la fois, je dirais, sexy et dangereux. Dangereux parce que c'est la période de Son of Sam, le killer. C'est l'époque de Taxi Driver. Donc vraiment, la ville est sale, en pleine récession économique. Il n'y a plus d'argent, tout simplement. Il n'y a plus d'argent.
Même du côté du Dakota ?
Au Dakota, c'est encore un îlot qui résiste. Mais le reste est véritablement catastrophique. Les ordures ne sont pas ramassés. À Harlem, par exemple, parfois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Enfin, c'est un New York qu'on a beaucoup de mal à imaginer, où la violence est très, très prégnante, puisqu'on ne peut pas se promener dans certains quartiers la nuit, et encore moins à Central Park, où est le Dakota. Et puis, il y a des îlots de prospérité, comme le Dakota, mais dans l'ensemble, les riches essayent de quitter la ville, puisque la ville va être en récession, et que le président des États-Unis, Gerald Ford, dit « Oh ben, si New York veut faire sécession et devenir indépendant, on n'en a rien à faire, qu'on la laisse. » Voilà, donc c'est un climat très étrange, mais aussi un climat de créativité incroyable. C'est Andy Warhol que vous avez mentionné, c'est le Studio 54, c'est la Révolution gay. Enfin, voilà, il y a les premières galeries à Soho. C'est une période de liberté, de création, où tout était très peu cher. On pouvait se loger à New York pour très peu d'argent.
Ariane Bois, dans Dakota Song, vous venez de le dire, vous parlez vraiment d'une période new-yorkaise, les années 70, ça se termine avec l'assassinat de John Lennon qui habitait le Dakota, mais on a l'impression que encore en 1980, plutôt le 8 décembre 1980, c'est-à-dire cette période qui clôt votre livre, le racisme est toujours prégnant dans cette société new-yorkaise, ne serait-ce que vis-à-vis de Yoko Ono.
Bien entendu, il est prégnant à l'égard des Noirs, évidemment, mais je le montre aussi des Latinos qui ont du mal à rentrer pour travailler au Dakota, pour Yoko Ono qui a longtemps été presque rejetée par certains voisins parce qu'elle était asiatique, japonaise, et donc il y avait tout ce passif de la guerre. Donc oui, les années 70, c'est une période de violence, c'est une période où on se tape dessus, hein, on a un peu oublié, mais physiquement, on s'engage, c'est les grandes manifestations, c'est les émeutes des Noirs dans les rues des grandes villes, et donc c'est une époque où si tout est possible et tout a l'air permis, tout est en même temps en train de changer. Entre les années 60 qui sont vraiment les combats pour les droits, les années 80 qui seraient plutôt les années de Wall Street et les années fric, les années 70 c'est une période vraiment à part et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon roman.
Et pour revenir au Dakota, est-ce que vous avez habité dans cet immeuble pour écrire le livre
Oui, j'ai eu la chance non pas d'y habiter mais d'y séjourner parce que par des amis d'amis d'amis, j'ai pu rentrer. Il faut vraiment connaître quelqu'un et y être invité. C'est très difficile de rentrer au Dakota. Moi, j'ai pu y séjourner plusieurs fois, prendre des centaines de photos, poser des questions aux portiers, aux garçons d'étage, à la lingère, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans cette communauté. Et puis, j'ai fait mon travail de romancière, des personnages fous de leur ville, fous de leur pays et surtout fous de leur immeuble.
Voilà. Et cet immeuble, c'est pas un microcosme, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont plus riches que d'autres, ceux qui ont la vue sur Central Park et ceux qui ne l'ont pas. Comment ça se passe à l'intérieur aujourd'hui?
Ah, ils sont tous très riches. L'appartement de Laurette Bacall a été vendu l'année dernière pour 21 millions de dollars. Donc à ce niveau-là de fortune, ils sont tous très riches. C'est vrai que certains appartements sont plus prisés que les autres parce qu'ils sont juste au niveau de la frondaison des arbres. Donc on voit sur Central Park très loin le East Side. Voilà. Certains appartements ayant des piscines sont considérés évidemment à juste titre comme les plus beaux, mais je crois que maintenant beaucoup de familles ont quitté le Dakota et l'âge d'or en tout cas de l'immeuble paraît être derrière lui.
Aujourd'hui, est-ce que le New York que vous décrivez dans Dakota Song a complètement disparu, pour le meilleur et pour le pire, hein, pour
C'est un New York d'avant l'embourgeoisement que je décris. Les années 70, c'est vraiment des quartiers qui sont encore très, très dangereux, alors que maintenant, ils sont à la mode. Hell's Kitchen, le Lower East Side, tous ces quartiers-là sont maintenant des quartiers à la mode, le Bowery ou la 42e rue. Mais c'est aussi un New York d'avant le sida. Donc c'est une période de liberté, une période de revendication sexuelle, identitaire, qui fait que c'est vraiment une période délicieuse, quoi.
Vous avez travaillé sur ce livre il y a quelques années, c'est-à-dire dans le New York d'aujourd'hui.
J'avais pris des notes quand j'étais guide, parce que j'ai été guide pour financer une partie de mes études. Donc j'avais pris beaucoup de notes et puis j'ai interviewé une trentaine de New-Yorkais qui m'ont chacun raconté leurs années 70. Et donc j'ai pu ensuite utiliser mon imagination pour créer des personnages qui avaient des chemins très différents. Un psychanalyste, une femme au foyer, un jeune enfant, un homosexuel professeur à Columbia, tout cela vont se rencontrer, se croiser, s'aimer, se détester, se combattre, comme dans un immeuble moyen.
Mais alors justement, je voulais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux finalement New York ? On a beau dire, ça s'est gentrifié, il s'y passe rien, mais quand on lit toute la violence qu'il y avait à cette époque-là, le racisme qui était si partagé encore dans les années 70 à Manhattan, on se dit que finalement, ça a plutôt bien évolué, ou pas si mal que ça, non ?
Oui, je crois que le New York d'aujourd'hui, en tout cas, est beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable à vivre pour des familles. Elles sont revenues, d'ailleurs, elles étaient toutes parties dans les banlieues.
Le vivre ensemble est réel.
Le vivre ensemble est bien meilleur. Vous faites pas houspiller quand vous êtes un couple interracial, par exemple. Mais je pense que le New York de l'embourgeoisement a fait que de nombreuses personnes des classes moyennes et les pauvres, en tout cas, ont dû être repoussé de plus en plus loin, et donc le risque est peut-être maintenant d'un New York un peu comme différentes villes européennes qui soient à la limite d'une ville musée ou d'une ville où en tout cas les gens ne viendraient que pour faire du shopping avec des espèces de centres commerciaux à ciel ouvert. Donc c'est une période qui est moins excitante. Là je reviens de New York, j'ai trouvé la ville très déprimée après Trump. C'est une ville très démocrate.
Mais déprimée comment ?
D'abord, il y a des manifestations devant la Trump Tower tous les jours, déprimés intellectuellement, c'est-à-dire que les démocrates et les gens de gauche de la ville se posent énormément de questions, se flagellent, vous savez, un peu à la mode américaine, c'est-à-dire ils n'ont pas vu arriver Trump et sa politique. J'ai trouvé que c'était une ville, oui, qui était sous le choc, encore sous le choc de ces élections, mais New York s'en remettra et se remettra toujours de tout.
Est-ce que les touristes vont visiter le Dakota depuis l'assassinat de John Lennon ?
Alors, il y a une foule devant en permanence. Yoko Ono a fait construire un jardin en l'honneur de son mari juste en face, où les gens viennent se recueillir, écouter une chanson, poser un petit caillou, poser des fleurs, etc. On n'a vraiment pas le droit d'entrer, donc on a à peine le droit de marcher sur le trottoir. On prend les photos de l'autre côté de la rue, mais effectivement, ça a généré beaucoup de touristes, et puis une drôle de réputation. Déjà, on disait qu'au Dakota, il y avait des fantômes, mais depuis la mort de Lennon, le fantôme de Lennon plane encore sur l'immeuble.
Ça veut dire quoi, Dakota ?
Alors, Dakota, il y a deux idées qui s'opposent. On disait que c'était un immeuble qui était situé aussi bien au Dakota, c'est-à-dire à notre Trifouilly-les-Oies à nous, c'est-à-dire le plus loin possible de New York, puisque le West Side, en 1884, était une zone abandonnée. C'était des champs, il n'y avait absolument rien. Le Dakota était le premier immeuble d'habitation du West Side, où on se disait que le propriétaire de l'immeuble avait... un amour pour les États de l'Ouest et donc voulait rebaptiser toutes les avenues de New York du nom des États de l'Ouest. Donc le Dakota comme le Missouri, comme l'État. Exactement.
I
exceptionnellement, on termine avec John Lennon, un extrait de son dernier album. Une chanson très Dakota Song, justement, Ariane Bois.
Magnifique chanson qui reste éternelle.
C'est édité chez Belfond, votre livre. Merci d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci à vous.